Chapitre 6e, la piste inattendue. 4 jours ne s'étaient pas passés depuis cet assassinat qui défrayait les journaux sous des titres sensationnels, que Martin Numa me dit, après dîner dans un petit restaurant au bord de la Seine, près de Saint-Cloud, où il m'avait donné rendez-vous, « Mon cher Courville, demain, ayez donc cette fantaisie d'aller prendre votre café, ou un boc dans cet établissement que fréquentent les marchands de diamants, et dont le père Stoveyn était un des plus assis du client. Regardez, devinez, si vous le pouvez, mais surtout, ne vous laissez aller à aucune manifestation de surprise. Vous avez pour vous trouver là une raison toute indiquée et toute logique. Vous venez chercher un complément de documentation sur cette étrange affaire auprès des clients qui connaissaient le père Stoveyn ou même qui se disaient ses amis. On vous connaît, on sait à quel journal vous appartenez. Il est probable que vous parviendrez à obtenir quelques renseignements très précieux qui vous permettront de faire un papier des plus intéressants. Le lendemain, comme me l'avait dit Martin Numa, je me trouvais vers 1 heure après déjeuner au café des marchands de diamants. Un journaliste doit, dans n'importe quel lieu de Paris où il se trouve, connaître plus ou moins quelqu'un. Aussi, quand je pris place à une des tables, je n'avais pas encore commandé mon café au garçon que j'avais serré déjà quelques mains. Je trouvais là des connaissances, des gens que l'on rencontre un peu partout dans toutes les manifestations de la vie parisienne, si variées, si bizarres parfois, à laquelle nous sommes forcément mêlés, des gens qu'on croise dans les couloirs de théâtre, dans les restaurants de nuit, sur les champs de course, aux fêtes quelles qu'elles soient. Forcément, on finit par se connaître parfois sans encore savoir quel nom mettre sur les figures. Ma présence, sans provoquer de l'émoi, et du reste, je ne l'eusse pas souhaité, causa cependant quelques surprises, quelques curiosités. Un de ces clients du café que je connaissais mieux vint à moi et prit place à ma table, un certain Gustave. « Mon cher Courville, commença-t-il, quel hasard heureux vous amène chez nous ? Quel est votre désir ? » ?»« Celui de prendre du café seulement. » »« Parfait. Me permettez-vous de faire de même en face de vous ? » ?»«
Avec grand plaisir. Merci. »
Après quelques autres phrases de banalité courante, mon ami se décida à me poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Eh bien, vous qui racontez tout dans votre journal, vous devez savoir quelque chose de nouveau sur le mystère du père Stoveyn. » « Précisément, répondis-je, je viens ici dans l'espoir d'obtenir quelques tuyaux inédits. Croyez-vous qu'ici, je pensais que je ne pouvais mieux m'adresser pour en obtenir de nouveaux, et je suis venu à tout hasard. Savez-vous quelque chose ?»«
Moi, personnellement, pas beaucoup plus que vous. Mais cependant, votre idée n'est pas mauvaise. »
Le père Stoveyn venait ici depuis de longues années. Naturellement, il y compte des amis, bien qu'il fût de nature peu liante. Tout à coup, mon ami s'interrompit. « Plus précisément, en voici un. » Il me désigna un homme convenablement vêtu en jaquette noire avec une recherche d'élégance. C'est un des plus vieux amis du père Stoveyn, autant qu'on pouvait être ami de cet ours, mais c'est en tout cas de ceux qui ont fait avec lui des affaires depuis le plus longtemps et le plus souvent. C'est un marchand de pierre, qui tient également une boutique de reconnaissance du Mont-de-Piété, appelée maintenant Crédit Municipal, dans le passage de la cité d'Antin. Il l'appela assez familièrement. « Eh, monsieur Basilesco, 2 mots, je vous prie. » Monsieur Basilesco se retourna et regarda qui appelait. Avec un accent étranger des plus prononcés, monsieur Basilesco répondit au bonjour de Gustave. Et il eut un mouvement que je remarquais, mais dont je ne pus me donner à moi-même la raison. Mon ami Gustave me présenta. Mon ami Courville, journaliste qui vient ici, espérant que nous lui fournirons quelques documents sur le mystère du père Stoveyn. Monsieur Basilesco me regarda avec attention, tint sur moi les yeux avec insistance. Je remarquai de mon côté que son visage était devenu plus pâle et que ses mains semblaient prises d'un léger tremblement quand vint il cherchait à réprimer. Avec son accent étranger, il me dit qu'en effet, il connaissait bien le père Stoveyn depuis de longues années, qu'il avait fait avec lui de nombreuses affaires. « D'ailleurs, ajouta-t-il, ici tout le monde connaît le père Stoveyn, chacun pourra vous en dire autant que moi. » Puis, comme un autre client du café lui faisait signe, Monsieur Basilesco en profita pour prendre congé et me laissa avec mon ami. Gustave, très obligeant, appela encore 2 ou 3 amis, mais aucun d'eux ne put me donner plus de renseignements que j'en avais. Bref, je quittai le café avec fort peu de documents, et je devais, pour faire mon papier, mettre de la broderie autour de ces menus faits. Je me demandais même dans quel but Martin Numa m'avait engagé à aller ce jour-là chercher des documents dans ce café auprès de ces gens, qui, à mon avis, ne devait pas en savoir plus long que moi ou ne dirait rien.